Bonsoir à toutes et à tous. L'Amérique de Donald Trump va bien imposer dès demain des taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance notamment d'Europe. Entre New York et Bruxelles, ce sera le principal dossier de cette édition. Le vent a-t-il tourné à Madrid pour Mariano Rajoy? Les 5 députés basques du PNV voteront demain la motion de censure contre son gouvernement et devraient ainsi précipiter sa chute. Également au menu de ce journal, la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la Roumanie et la Lituanie pour avoir hébergé dès 2004 des centres secrets de torture de la CIA. Le procès du bijoutier niçois qui avait tué un jeune cambrioleur, la légitime défense est écartée par l'avocate générale. On attend désormais le verdict. Et puis cette loterie du patrimoine lancée aujourd'hui par Emmanuel Macron, qu'en attendent ceux qui se battent pour sauver les monuments en péril? Nous prendrons l'exemple de la maison de Pierre Loti à Rochefort en Charente-Maritime. L'Amérique de Donald Trump confirme son visage protectionniste. Des taxes douanières vont donc être imposées dès demain par les États-Unis sur les importations d'acier et d'aluminium. Donald Trump et son administration confirmaient donc en début d'après-midi l'introduction de ces taxes. 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium importé aux États-Unis. Une décision qui était crainte depuis des mois par l'Europe, mais pas seulement. On voit ça depuis New York avec Marco Voltaire.
Le Wall Street Journal l'annonçait dès hier, après deux périodes d'exemption, le Canada, le Mexique et l'Union européenne, qui représentent près de la moitié des importations américaines en acier et en aluminium, seront donc à leur tour frappés par les nouveaux tarifs douaniers. Les taxes de 25 et 10% s'appliquent à partir de minuit. Malgré les accords de défense, notamment dans le cadre de l'OTAN, Washington invoque une loi qui permet de mettre en place des mesures protectionnistes si la sécurité nationale est menacée. C'est franchement absurde, a déclaré hier la ministre canadienne des Affaires étrangères, alors que le Canada est le premier fournisseur des États-Unis en acier. Un protectionnisme néanmoins défendu par Wilbur Ross, pas plus tard qu'hier, lors de la grande réunion annuelle de l'OCDE à Paris. Pour le secrétaire américain au commerce, tout pays a l'obligation de protéger ses citoyens et ses moyens de subsistance. Puis il a critiqué le comportement des Européens brandissant la menace de mesures de représailles. Pour cela, il a pris la Chine comme exemple. Selon Wilbur Ross, Pékin ne s'est pas servi de tarifs douaniers comme excuse pour refuser de négocier. Il n'y a que les Européens qui persistent à dire qu'ils ne peuvent pas négocier si l'on impose des taxes.
Marco Voltaire à New York et déjà des réactions du Quai d'Orsay pour la France qui juge ces taxes américaines injustifiées et injustifiables. Et puis pour l'Union européenne, Jean-Claude Juncker qui annonce des contre-mesures précisées dans les heures qui viennent depuis Bruxelles où vous vous trouvez. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous.
L'Union européenne ne veut pas rester sans réagir, disait-il à Jean-Claude Juncker il y a quelques heures. À quelle réaction des Européens faut-il s'attendre? Pierre, à entendre Jean-Claude Juncker, on semble s'acheminer vers une réponse du style œil pour œil, dent pour dent.
Alors oui, effectivement, il y a un volet qui est très biblique, œil pour œil, dent pour dent. C'était d'ailleurs l'expression du précédent commissaire au commerce, Pascal Lamy, il y a 15 ans, lors de la première guerre de l'acier, qui disait « le marché mondial n'est pas le Far West ». Eh bien, il y a un côté œil pour œil, il y a un côté Far West, puisqu'il y a les mesures dites de rétorsion. Les Européens vont imposer des droits de douane lourds, mais symboliques, contre des produits manufacturés et des produits agricoles venant de circonscriptions et d'États des États-Unis où on vote traditionnellement républicain. Le but est de frapper Donald Trump et ses alliés dans leur électorat. Il y aura donc des taxes contre une marque de jean mondialement connue, des motos mondialement connues, ou alors du jus d'orange, des aciers laminés, des RL. Bref, tout un éventail de mesures. Il y aura aussi des mesures dites de protection. Ce sont aussi des droits de douane, mais des droits de douane en miroir sur les produits d'acier et d'aluminium européens, destinés à empêcher que l'Europe soit inondée de produits qui n'auraient plus de débouchés aux États-Unis. Et puis, troisième volet, celui-là, il est déjà entamé, c'est le volet légal. L'Union européenne, demain, va porter plainte devant l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Elle avait déjà notifié les chapitres sur lesquels elle porte plainte depuis le 18 mai, en particulier sur le fait que la justification de sécurité nationale américaine est absolument absurde. Selon elle, c'est uniquement du protectionnisme. Et donc ça se met en marche dès demain.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles, merci. Réaction bien au-delà de l'Europe, avec le Mexique qui annonce qu'il prépare des représailles à ses taxes américaines dès ce 1er juin, qui vont également fortement se ressentir sur les exportations mexicaines d'acier et d'aluminium. D'un 1er juin à l'autre, il y aura un an demain, Donald Trump, toujours lui, sidérait déjà la planète. Il annonçait que les États-Unis sortaient des accords de Paris sur le climat. Mais Donald Trump n'est pas toute l'Amérique et de nombreuses villes choquées par cette décision ont depuis repris à l'échelon local le flambeau de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est en particulier, le cas de la ville de Pittsburgh, l'ancienne capitale de la sidérurgie américaine, où s'est rendu pour nous Grégory Phillips.
J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh et pas ceux de Paris. Il y a un an, c'est ainsi que Donald Trump justifie le retrait américain de l'accord sur le climat. Ce jour-là, le maire démocrate de la ville, Bill Peduto, est dans son bureau au 5e étage de la mairie. Et cette allusion à Pittsburgh le met vraiment en colère.
Il faut comprendre l'histoire de Pittsburgh. C'est ici qu'on a découvert le charbon en Amérique, le pétrole. Et cette ville était en train de mourir. Dans les années 80, on a connu la désindustrialisation. On avait ici, à Pittsburgh, un taux de chômage plus fort que pendant la Grande Dépression. Et plusieurs facteurs nous ont permis de nous redresser. L'un d'eux, c'était de nettoyer notre environnement. Notre air, notre eau. Imaginez des industries nouvelles basées sur le développement durable. Et donc, quand le président a dit que sa décision, il l'avait prise pour les habitants de Pittsburgh, c'est comme s'il avait complètement ignoré notre combat, notre histoire et la stratégie de Pittsburgh pour se relever de l'effondrement du système industriel.
L'une de ces stratégies, c'est de se lancer à corps perdu dans les nouveaux métiers liés au développement durable. Nous voici chez Adam Rossi, qui commercialise des vélos et des voitures électriques et depuis une dizaine d'années, des panneaux solaires un peu partout dans la région.
Tout ça est à portée de main. Vous pouvez même commander des panneaux solaires sur Amazon, livrés directement chez vous. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités et du travail. Il y a quelques années, une manifestation ici a réuni 8000 mineurs qui réclamaient des jobs dans le charbon. Et nous, on était là avec nos panneaux solaires et on leur disait « Non, ça peut être votre nouveau métier ».
Et aujourd'hui, environ 13 000 personnes à Pittsburgh travaillent dans le secteur des énergies renouvelables. L'air est moins pollué qu'il y a 30 ans. À l'époque où Pittsburgh était encore baptisée Steel City, la ville de l'acier. Karen Clay est chercheuse sur le climat à l'université Carnegie Mellon.
La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que certains États comme la Californie montrent le chemin. Et de nombreuses villes ont fait des progrès significatifs sur ces problèmes de changement climatique. Les choses s'améliorent, pas grâce à Trump, mais malgré Trump.
Pittsburgh a pour objectif d'être une ville 100% énergie renouvelable à l'horizon 2030. Aujourd'hui, aux États-Unis, un peu plus de 400 cités américaines se disent toujours engagées par l'accord de Paris sur le climat. Elles représentent environ 70 millions d'Américains.
Un reportage signé Grégory Phillips. En Espagne, c'est l'heure des comptes pour le gouvernement de Mariano Rajoy. Au Parlement de Madrid, on compte et l'on recompte les voix de députés qui devraient voter demain en faveur de la motion de censure déposée par les socialistes. Il s'agit donc de chasser du pouvoir l'équipe Rajoy, fragilisée par la condamnation pour corruption du Parti populaire du Premier ministre. Nous sommes en ligne depuis Madrid avec Marie-Hélène Ballestero. Bonsoir.
Bonsoir Camille.
Alors depuis ce matin, Marie-Hélène, les différents partis espagnols se succèdent à la tribune pour dire s'ils soutiendront ou non cette motion de défiance. Et le PNV, Parti Nationaliste Basque, semble avoir scellé le sort de l'actuel gouvernement.
C'est bien ça Camille, une fois de plus les nationalistes basques vont être décisifs. Pour faire tomber le gouvernement Rajoy et faire triompher cette motion de censure, les socialistes doivent désormais recueillir une majorité absolue de 176 députés et les 5 votes des nationalistes basques sont ceux qui devraient faire pencher la balance et faire sortir vraisemblablement Mariano Rajoy du palais de la Moncloa. Le suspense aura duré toute la journée, mais finalement, eh bien, le PNV, comme vous le disiez, va appuyer cette motion de censure des socialistes. Esteban, le porte-parole du PNV au Congrès des députés, vient de le confirmer. Tout le monde attendait avec impatience son discours et sa décision, et c'est chose faite. Demain, Mariano Rajoy et son équipe devraient donc être chassés du pouvoir, sauf imprévu. Et il pourrait justement y avoir des imprévus, car Rajoy pourrait prendre tout le monde de court et présenter sa démission dans les prochaines heures et mettre fin ainsi à la motion de censure. Tout est possible à cette heure-ci, d'autant que le chef du gouvernement Rajoy a disparu de la circulation. Ce matin, il a été très virulent au Congrès des députés, il s'en est pris directement au Parti socialiste et à son chef de file, Pedro Sánchez, mais après la pause déjeuner et après surtout après avoir appris que les nationalistes basques allaient voter en faveur de la motion de censure, eh bien Rajoy n'est plus réapparu dans cet hémicycle. À cette heure-ci, tout le monde s'interroge, que va faire Rajoy dans les prochaines heures? Va-t-il démissionner ou bien sera-t-il chassé demain du pouvoir suite au vote de la motion de censure? Comme vous pouvez le voir, eh bien, le suspense continue en Espagne.
On l'aura compris, tout reste possible en Espagne. Merci beaucoup Marie-Hélène Ballestero. L'affaire cette fois remonte à 2004, les suites de l'intervention américaine en Irak et ses prisons secrètes installées par la CIA dans plusieurs pays européens. À la Cour européenne des droits de l'homme ce jeudi, deux pays ont été condamnés pour avoir accueilli ces centres de détention qui échappaient à tout cadre légal et où de nombreux détenus, il faut bien le dire, ont été torturés. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
Ces deux pays condamnés pour traitements inhumains et dégradants, ce sont la Lituanie et la Roumanie.
En effet, la Cour avait été saisie par deux prisonniers de Guantanamo qui affirmaient avoir été détenus au secret en Roumanie pour l'un, en Lituanie pour l'autre, entre 2004 et 2006. La Lituanie se voit condamnée pour avoir directement participé au programme de prison secrète de la CIA, tandis que la Roumanie est jugée complice, tout comme la Pologne, déjà condamnée en 2014. Les deux pays sont reconnus coupables de plusieurs violations du droit européen, dont l'interdiction de la torture. L'existence de ces prisons secrètes de la CIA dans plusieurs pays européens et asiatiques avait été révélée en 2005. Elles avaient été créées dans le cadre de la lutte contre Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre et auraient donc permis d'interroger de façon musclée de multiples suspects dans le plus grand secret. Les États accueillant ces centres auraient reçu plusieurs millions de dollars pour leur soutien. Alors si la Roumanie et la Lituanie nient toujours avoir accueilli de telles prisons, la Cour européenne des droits de l'homme est-elle affirmative dans ses arrêts? Elle se fonde notamment sur le rapport du Sénat américain sur la pratique de la torture à la CIA, déclassifié en 2014, et conclut que la Lituanie a bien accueilli une prison secrète de février 2005 à mars 2006, que l'un des deux requérants, un Palestinien apatride né en Arabie Saoudite, considéré comme l'un des principaux lieutenants d'Al-Qaïda par Washington, y a été détenu avant d'être transféré dans un autre site en Afghanistan et que les autorités lituaniennes savaient qu'il y serait torturé. C'est un autre prisonnier, un Saoudien, soupçonné notamment d'avoir perpétré l'attentat contre le navire militaire USS Cole en 2000 au Yémen, qui a fait condamner la Roumanie pour violation de ses droits. Parmi les tortures dénoncées et rappelées dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, les simulations de noyade, la suspension, la tête en bas, les projections contre des murs, le maintien debout, nu dans le froid ou encore l'exposition à la lumière et à un bruit assourdissant pendant plusieurs heures.
Marie-Pierre Véraud, merci à vous. La même Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui a également et lourdement condamné la France. L'État va devoir verser 6,5 millions d'euros à un homme victime d'une bavure policière. C'était en 2004. Deux agents de la police ferroviaire l'avaient passé à tabac, le laissant inconscient dans le coma. Sur ce sujet des violences policières, la condamnation de la France revêt un caractère exemplaire, Agnès Vogel.
Abdelkader Guédir a 21 ans lorsqu'il est arrêté en novembre 2004 dans cette gare RER de Seine-et-Marne, soupçonné à tort d'avoir jeté des cailloux sur les trains. Interpellé si violemment par les agents de la police ferroviaire, le service de surveillance générale et de la police nationale, qu'il tombe dans le coma. Maître Grégory Tuan dit Dieudonné, l'un de ses avocats.
Ce qui ressort des témoignages, c'est une amenée au sol extrêmement violente, avec la tête qui heurte le sol en béton, avec également un coup de genou très violent. Alors les faits sont contestés, ont été contestés par les agents mis en cause qui ont été pris dans une procédure pénale pour des faits de violence volontaire qui aboutit à un non-lieu général. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas été du tout convaincue par les explications apportées par les juridictions nationales et par le gouvernement français. Donc elle a conclu à une violation grave, intense de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit tous les mauvais traitements.
Le gouvernement français prend acte de cette condamnation définitive et va donc verser les 6 539 950 euros à Abdelkader Guédir qui reste paralysé et sous tutelle et va pouvoir 14 ans après les faits financer le logement, les équipements et l'assistance dont il a besoin 24 heures sur 24. C'est la plus forte indemnité jamais octroyée à une personne physique de toute l'histoire de la Cour européenne des droits de l'homme.
Agnès Vogel à Strasbourg pour France Culture. 18h passées de 13 minutes à Nice, les jurés de la cour d'assises se sont retirés pour délibérer au procès de Stéphane Turc, ce bijoutier qui avait tué un cambrioleur d'une balle de fusil à pompe dans le dos en 2013. Le verdict est attendu dans la soirée et une peine de 5 ans avec sursis a été requise par l'avocate générale. Dans son réquisitoire, elle a donc retenu la culpabilité pour homicide volontaire, mais elle a écarté la légitime défense sans pour autant demander de prison ferme pour le bijoutier Florence Turme.
Ce n'est pas le procès de la légitime défense, c'est un procès où un accusé évoque la légitime défense. D'emblée, l'avocat général repose les termes du débat dans la ligne droite des plaidoiries des parties civiles. Vous ne jugez pas un cas ambigu de légitime défense, avait lancé maître Philippe Soucy, vous jugez un meurtre. Caroline Chassin donne lecture de l'article 122.5 du Code pénal. Trois conditions cumulatives, insiste-t-elle. Une agression injuste, elle l'est effectivement, une riposte simultanée, des moyens équivalents. Elle repose le livre, se tourne vers les jurés. Au moment où Stéphane Turc prend son arme, l'agression est terminée. Il ne craint plus pour sa vie, ils sont partis. Il n'y a pas de légitime défense quand on tire sur des auteurs en fuite, d'autant qu'une balle a atteint la victime dans le dos. Sur la question de l'homicide volontaire, le raisonnement de l'avocate générale devient plus juridique encore. On ne peut jamais rapporter l'intention psychologique de donner la mort. Il suffit d'étudier les moyens utilisés. Elle cite l'arme à feu, la distance de tir très proche, la posture du tireur. Reste la peine à prononcer pour le bijoutier qui n'a jamais fait un seul jour de prison et Caroline Chassin ne requiert pas son placement en détention. C'est effroyable ce qu'il a vécu. Pour elle, seule une peine symbolique peut venir apporter la paix dans ce dossier. 5 ans d'emprisonnement intégralement assorti du sursis, suggère l'avocate générale, une peine de principe dont ne veut pas la partie civile. Sans surprise, mais sans convaincre non plus dans sa démonstration, l'avocat de Stéphane Turc, lui, a plaidé la légitime défense et l'acquittement pour son client.
Eux sont devant le tribunal de grande instance d'Amiens. Ils se voient réclamer 140 000 euros de dommages et intérêts. 6 militants de la Confédération paysanne jugés au civil pour avoir démonté en 2014 une partie de la ferme dite des 1000 vaches. C'est près d'Abbeville, dans la Somme, cette ferme-usine érigée en symbole d'une surindustrialisation de l'élevage bovin. Ce matin, donc, l'audience a duré 2 heures et les prévenus estiment que les faits reprochés ont été exagérés, que la facture a été gonflée par les plaignants. Pierre-Alain Prévost est l'un des 6 prévenus.
Je pense qu'il faut qu'on réponde de nos actes. Ça, il n'y a pas de souci. La vraie injustice, elle est quand... la justice n'est pas la même pour tout le monde. Quand on voit l'usine des 1000 vaches, aujourd'hui, ils ont une astreinte de l'État de 600 000 euros. Il n'y a personne qui vient leur demander de payer. Nous, on a agi très symboliquement avec le démontage de pièces, mais parce que c'est la culture de l'action symbolique de la Confédération paysanne. On nous traite de vandales, mais c'est absolument faux. Les gens qui disent ça n'étaient pas là le jour J. Il y a eu vraiment démontage symbolique. Donc qu'on soit condamné, on l'a déjà été au niveau pénal. Qu'on nous demande aujourd'hui 140 000 euros, c'est profondément injuste parce qu'il n'y a clairement pas eu de dégradation qui ont été réalisées sur les différentes actions. Dégradation réelle qui demanderait qu'on doive payer. Mais c'est tellement criant qu'on est persuadé qu'à terme, avec les délais que sont les délais de la justice, justice soit faite et donc l'autorisation d'exploiter, voire le permis de construire, soit déclarée comme étant illégale.
Et la justice tranchera sur ces dommages et intérêts le 13 septembre. En politique, on ne change pas une équipe qui ne gagne pas. Marine Le Pen propose à Nicolas Dupont-Aignan de rejouer le ticket constitué à l'extrême droite dans l'entre-deux tours de la dernière présidentielle. Mais cette fois, ce serait pour les élections européennes de l'an prochain. La présidente du Front National publie une lettre ouverte dans laquelle elle propose aux fondateurs de Debout la France de figurer avec elle dans les 2 premières places d'une liste commune. Les Français mis à contribution pour sauver les fleurons menacés de notre patrimoine. Emmanuel Macron lance en ce moment depuis l'Elysée sa grande idée sur le sujet, une loterie nationale spéciale organisée le 14 septembre. Ce sera la veille des journées du patrimoine avec un ticket mis en vente à 15 euros et à la clé un jackpot de 13 millions. Les sommes récoltées, espérées entre 15 et 20 millions d'euros, devraient permettre de financer la rénovation de 18 monuments emblématiques qui ont été choisis ces derniers mois par la mission Patrimoine en péril. Parmi ces lieux, il y a la maison de l'écrivain voyageur Pierre Loti. C'est à Rochefort, en Charente-Maritime, et c'est Éric Chavroux qui nous en parle.
Pendant des années, l'incroyable maison de Pierre Loti a attiré les foules, jusqu'à devoir fermer il y a près de 6 ans, victime du temps et de visiteurs qui ont fragilisé sa succession de décors et d'objets d'Orient, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Aujourd'hui, les chantiers sont si coûteux que l'on ignore quand ce lieu unique rouvrira. 8 à 10 millions d'euros seraient nécessaires au total, dont 450 000 euros rien que pour un travail de pré-restauration du plafond de la mosquée venue de Damas. Ces 7 pièces, priorité des priorités, qui devraient bénéficier du loto du patrimoine. Ce plafond en bois, en partie peint et doré, a été attaqué par des insectes.
Comme il a été dévoré aux vrillettes, il faut consolider le plafond en question et puis il faut en même temps consolider la partie visible, la partie peinte et la partie dorée.
Claude Stéphanie est le conservateur des musées municipaux de Rochefort.
Il s'avère qu'en Syrie, on utilisait une préparation à la colle de peau. Et donc, on ne peut pas pratiquer ce qu'on pratique sur les peintures à l'huile. Donc là, en fait, il faut faire une consolidation fragment par fragment. Donc c'est un très très lourd travail. Et il est tellement fragile qu'il faut travailler sur place.
En attendant de connaître le montant du gain pour ce chef-d'œuvre en péril, chacun peut devenir mécène en ligne pour compléter les subventions de la ville, de la région, du département et de l'État. Et l'on sait déjà que les 18 sites privilégiés par le loto du patrimoine recevront entre 100 000 et 1 million d'euros, avec de l'argent qui restera pour les 251 autres sites retenus, menacés mais moins médiatisés.
L'exemple de cette étonnante maison de Pierre Loti à retrouver en une de notre site franceculture.fr. Une fois de plus, Zinedine Zidane prouve qu'il excelle dans l'art du contre-pied. Le champion du monde français de football a surpris tout le monde aujourd'hui en annonçant qu'il n'entraînera plus le Real Madrid la saison prochaine. Il y a 5 jours, pourtant, Zizou entrait dans l'histoire en remportant pour la 3e année de suite la Ligue des Champions avec le club qu'il entraînait depuis plusieurs années déjà. Je vous livre cette réaction pleine de sens signée François Hollande. C'est mieux de partir quand on est au firmament, dixit l'ancien président de la République qui sait de quoi il parle. Du côté de la météo, enfin, les orages ce soir s'annoncent plus modérés que prévu. Du coup, Météo France limite son alerte orange à 5 départements du Grand Est, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges. Le temps demain sera plus clément, demain matin en tout cas, avec des températures au lever du jour prévues entre 14 et 18 degrés.